Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À l'occasion de la 9e édition de Bordeaux Fête le Vin qui se tient du 26 au 29 juin, nous retrouvons Franck Ferrand depuis le pavillon de l'école du vin de Bordeaux à côté de la place des Quinconces. Bonjour,
oui,
Franck.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Quel bonheur d'être ici à Bordeaux il y a une petite dizaine d'années, à l'époque où cette superbe cité au bord de la Gironde avec cet extraordinaire rideau de pierre d'architecture du 18e siècle quasiment unique, à l'époque où cette cité a fait peau neuve, j'ai dit, c'était sur l'antenne d'Europe 1, qu'elle était la plus belle vigne du monde. Eh bien, ce n'est pas ce que j'ai vu ce matin, ce n'est pas l'ambiance qui règne ici qui va me faire changer d'avis. Le nom de Bordeaux est partout sur la planète symbole et synonyme d'art de vivre, de bonheur d'être vivant, et je trouve que c'est assez mérité.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je disais la plus belle ville du monde, assurément la plus belle ville de France. Et après, si vous aimez cette architecture classique, si vous aimez la belle pierre blonde bien sculptée, si vous aimez les beaux ensembles, et puis ce ciel extraordinaire, ce climat tellement accueillant, cette atmosphère si particulière qui baigne la ville, évidemment, il faut venir à Bordeaux. Le conseil était utile il y a quelques années. Je crois qu'il est devenu un peu moins aujourd'hui, puisque les touristes affluent en nombre. Il faut dire qu'on ne compte plus aujourd'hui les couvertures de grands magazines qui ont fait la gloire de cet extraordinaire ensemble architectural. Alors, nous sommes sur les quais, nous sommes là vraiment au bord de la Gironde, et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, Roland Ferrège, c'est que ces quais sont l'endroit même où est né le grand négoce et le grand commerce des vins de Bordeaux. Il faut se reprojeter quelques siècles en arrière et imaginer ce fleuve couvert de navires et de gréments. Il faut imaginer les quais pleins de monde avec des tonneaux qu'on roulait.
Alors il faut imaginer surtout qu'il n'y avait pas de quai et que les bateaux prenaient leur cargaison avec des chaloupes et de différentes façons. Hein. Et toute la partie qui est devant la place de la Bourse, devant les Chartrons, etc., est une partie qui a été gagnée sur le fleuve. Alors les Chartrons se situent à 200-300 mètres d'ici. Et donc il y avait une activité...
Un tout petit peu plus au nord.
Un tout petit peu plus au nord, oui. Il y avait une activité effectivement intense, hein, puisque les exportations de vin de Bordeaux partaient d'ici. Mais depuis des époques très, très, très anciennes, le port originel de Bordeaux était au niveau quasiment de la Bourse actuelle, à la descente du cours du Chapeau Rouge. Donc on est tout à fait dans l'activité portuaire.
Vous avez été vous-même le directeur général du CIVB. Le CIVB, c'est le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. C'est lui qui organise cette grande manifestation bisannuelle, Bordeaux Fête le Vin.
Non, au départ, il faut rendre à César ce qui lui appartient, puisqu'on est dans l'histoire. C'est Hugues Martin qui, en 98, a relancé cette fête du vin. Il y avait eu une fête du vin précédemment en 1903 qui avait été absolument grandiose, puisque tout l'empire français était sur les Quinconces. Et donc cette initiative d'Hugues Martin a ensuite été reprise tous les deux ans. Et on en est, je crois, cette année à la 9e édition.
En fait, quand il n'y a pas Vinexpo, pour parler clair, il y a Bordeaux Fête le Vin.
Voilà,
on peut dire ça, en fait.
Alors, c'est une association
les années pères
entre la ville, le CIVB, la Chambre de commerce et la région Aquitaine.
Alors, vous nous parliez à l'instant de l'époque où il n'y avait pas encore de quai. Tout à l'heure, nous reviendrons sur le quai des Chartrons, nous parlerons des entrepôts, etc. C'est vrai que depuis très longtemps, Bordeaux est associé au vin. Il y a un vignoble ici qui est un vignoble antique, on peut le dire, Sandrine Lavaux.
Alors effectivement, le vignoble de Bordeaux naît à l'époque antique, au 1er siècle après Jésus-Christ, comme la plupart des vins français. On pourrait dire la même chose de la Bourgogne ou des Côtes-du-Rhône, où effectivement les Bordelais vont implanter leur propre cépage, la fameuse Biturica.
Qui vient d'où d'ailleurs ce cépage ?
Alors, il y a plusieurs hypothèses sur cette question-là. Roger Dion, le grand historien géographe du vin, avait émis l'hypothèse que les Bordelais soient allés chercher ce cépage sur les côtes galiciennes. Et puis l'historien Robert Etienne avait plutôt émis l'idée que les marchands bordelais aient gagné l'Albanie et particulièrement
l'Albanie
et particulièrement le grand port de l'époque qui s'appelait Dyrrachium, qui est Durrës actuel en Albanie, où ils auraient trouvé ce cépage qu'ils auraient ensuite adapté au climat océanique bordelais.
Voilà. Est-ce que ce climat a joué un rôle d'ailleurs très très particulier, parce que après tout le vin, la vigne dans l'imaginaire collectif, c'est associé d'abord à la Méditerranée.
Effectivement, les premiers vignobles sont avant tout des vignobles méditerranéens, hein, et c'est à Rome que l'on doit la diffusion au-delà de ces contrées méditerranéennes du goût du vin, hein, qui a généré ensuite la volonté de développer des vignobles dans des zones plus septentrionales, je dirais. Hein. Mais pour autant, il est certain que si le climat joue, on sait aussi qu'il peut jouer négativement sur la production de vin, hein, notamment. Lorsque les printemps sont trop arrosés, on sait combien cela peut perturber la récolte.
On a tendance aujourd'hui à mettre l'accent sur les graves, sur le sol en quelque sorte. Il y a toute la culture aussi du vin, bien entendu.
C'est pas l'historienne qui vous dirait que le vignoble est avant tout une construction historique et sociale. Hein. C'est une chose qu'il y a un climat, c'est une chose qu'il y a un sol. Encore faut-il qu'il y ait des hommes pour le mettre en valeur. Hein. Et il est évident que l'historienne a tendance à considérer que c'est effectivement la part de l'homme qui est prédominante, notamment en matière de géographie viticole, puisque c'est essentiellement, finalement, le protectionnisme de Bordeaux, notamment ce qu'on appelle les fameux privilèges du vin, qui ont déterminé sur le long terme la géographie historique des vignobles de l'Aquitaine, et qui ont favorisé la prédominance du vignoble bordelais.
Il me semble qu'il reste quelque chose d'un peu romain, d'ailleurs, par ici. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a dans l'air quelque chose d'assez...
L'oïcium,
n'est-ce pas,
la fameuse oïcium. Le goût de la civilisation, le goût effectivement des loisirs, du plaisir et des commodités, comme disait Voltaire.
Nous sommes à Bordeaux, nous sommes à Burdigala d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire, Roland Ferretsch, que cette ville de Bordeaux, il faut imaginer pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est comme une sorte, ça fait comme une sorte de croissant comme ça le long du fleuve, hein, sur la rive gauche du fleuve. Cette ville de Bordeaux, elle a toujours eu un rapport particulier avec l'eau et avec le fleuve, et donc avec les destinations lointaines.
Alors, naturellement, historiquement, c'est par l'eau que partait le vin. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un rapport extraordinaire entre la ville et son port, en quelque sorte, très éloigné de l'océan, donc avec la difficulté du genre. Et il faut imaginer ce port encombré de voiliers, sans les commodités de maintenant. Et donc, c'est une activité portuaire qui s'est d'ailleurs développée et qui, à un moment, au XXe siècle, a privé presque Bordeaux de son port, puisque
oui, bien sûr.
Si vous étiez venu il y a 20 ans...
Mais
il y avait,
j'y suis venu, figurez-vous, c'était décevant de ce
voilà,
point de vue.
Voilà, c'était très décevant, il y avait des hangars, des grilles immenses...
Mais on voyait rien, en fait.
On voyait absolument rien, et la ville s'était détournée de son port.
C'est incroyable, mais donc, c'était comme ça, effectivement. Justement, cette ville de Bordeaux, son évolution, etc., nous allons en parler dans un instant avec quelqu'un que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien. On est en famille ici, vous savez, j'ai même aperçu tout à l'heure Jean-Marie Pantalacci, qui je crois est quelque part dans le public. C'est Stéphane Place, notre correspondant local, qui est avec nous. Je lui donne la parole dans un instant.
Le vin délie la langue, il entr'ouvre le cœur. Il donnera ce soir le ton et la couleur au jardin de la braise et cristal du désir. À notre nuit d'amour, buvons pour le plaisir. Qu'il soit de Blaye ou d'Écheronne, de Vaqueras ou de Tursan, le vin réjouit le cœur de l'homme et de la femme, évidemment.
Qu'il soit de Blaye ou d'Écheronne, le vin réjouit le cœur de l'homme.
Né d'une âpre Syrah, d'un peu de Carignan, d'une terre solaire, des mains d'un paysan, c'est avec ce vin-là qu'on dit qu'Ulysse a mis le cyclope à genoux et Circé dans son lit. Le vin délie les sens, il entr'ouvre les draps, et pourtant sous sa coupe, je ne mentirai pas, je bois
moi.
C'était Juliette sur Europe 1, petite messe solennelle. Et nous retrouvons Franck Ferrand en direct et en public de Bordeaux, Fête le Vin, sur les quais de la Gironde.
Vous l'entendez, le public bordelais qui nous accueille sous un joli soleil, avec en même temps un ciel déchiré de nuages et qui a l'air d'être constitué exprès pour se refléter dans ce magnifique fleuve. Alors, merci beaucoup Stéphane Place d'être venu nous dire bonjour. C'est quand même une ville extraordinaire, cette ville de Bordeaux.
Vous me dites ça à moi, Franck, qui n'ai pas tellement intention de la quitter. Donc effectivement, je vous le confirme, on a vécu ces dernières années une transformation. Roland Ferret, je le disais tout à l'heure, dans les années 90 encore, on ne voyait pas la Garonne, on voyait pas le fleuve, on était totalement coupé. Il y avait des vieux hangars portuaires. Enfin, on sentait bien qu'il y avait une époque révolue et en même temps, donc, on n'avait pas accès au bord de l'eau. Aujourd'hui, cette manifestation, elle symbolise aussi ces retrouvailles-là avec la Garonne, dans cette ambiance très festive. Et puis, on constate, je l'ai vu tout à l'heure en allant interviewer des visiteurs, qu'il y a énormément d'étrangers. Vous disiez tout à l'heure, finalement, Bordeaux attire énormément, fait la une d'un certain nombre de magazines qui en vantent les qualités architecturales, la qualité de vie, le vin. Bien, manifestement, ça a dépassé les frontières, puisque j'ai croisé tout à l'heure une Japonaise qui est venue exprès à Bordeaux pour participer à Bordeaux Fête le Vin. Elle était venue avec son amie, habillée d'ailleurs à la japonaise.
Et elle est une parmi quelques 500 000, me dit-on, sur l'ensemble du week-end.
Sur l'ensemble du week-end, 500 000 visiteurs effectivement attendus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que le vin fédère des profils très différents. Il y a des amateurs éclairés qui viennent exprès, qui sont là et qui participent donc à cette dégustation sur les 2 kilomètres de quai où nous nous trouvons. Il y a aussi beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui passent notamment par ici, par l'atelier de l'école du vin. On apprend à déguster. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas la fête de la bière. On ne vient pas boire.
Non, bien sûr. On vient comprendre.
Exactement.
C'est la célèbre anecdote de Talleyrand. On lui présentait, il reçoit un général russe, on connaît cette histoire. Hein. Il était lui-même propriétaire de Aubryon, bien entendu. On est en 1814. Il reçoit un général russe qui buvait le vin comme on boirait précisément de la bière. Et au bout d'un moment, il lui dit « Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait chez nous. Voyez-vous, on prend le verre et on fait doucement danser le vin. On observe sa jambe, on admire sa robe, on hume son bouquet, etc. » Et le général commençait à en avoir assez. Au bout d'un moment, il dit « Ensuite, on le boit. » Il dit « Non, ensuite, on le repose, on repose son verre et l'on en cause. » C'est ça aussi Bordeaux, d'une certaine manière.
Alors,
quand je venais ici pour écrire un livre il y a une dizaine d'années, la ville était sans dessus-dessous, il y avait des travaux partout. Ça a été une opération d'une violence incroyable. Mais alors, le résultat est à la hauteur. C'est une ville transfigurée aujourd'hui.
Les Bordelais ont un peu souffert de ces travaux parce qu'effectivement, vous le disiez, ça a été violent et ça a beaucoup perturbé notre quotidien. Aujourd'hui, personne ne s'en plaint, évidemment, et tout le monde en profite. Il a fallu néanmoins, et c'est là aussi que c'est intéressant sur le plan des modifications urbaines, s'adapter. Par exemple, vous ne venez plus ou très peu à Bordeaux en voiture, il vaut mieux la laisser de côté. Moi, le premier, je suis devenu un cycliste, un piéton, un usager des transports en commun.
Il faut dire que le relief n'est pas insurmontable dans la région.
Ça se fait assez facilement.
Alors, vous nous parliez des étrangers qui étaient là et qui viennent nombreux fêter le vin ici à Bordeaux. C'est une tradition cosmopolite qui est profondément ancrée dans cette région, dans ce vignoble et dans cette ville, Roland Ferredge.
Oui, bien sûr, parce que la grande histoire des vins de Bordeaux commence avec évidemment les Anglais, le mariage d'Aliénor, avec tout ce qu'on sait des siècles qui ont suivi, les 300 années pendant lesquelles l'Aquitaine était anglaise. Et donc ce vin de Bordeaux est un vin de commerce avec les influences anglaises, hollandaises, allemandes, et ça s'est poursuivi jusqu'à très récemment avec l'influence asiatique, par exemple. Et donc cette tradition d'accueil et d'adaptation aux différents marchés, en quelque sorte, s'est faite dans l'histoire constamment, quoi.
Je me rends compte, Sandrine Lavaux, que je ne vous ai pas présenté, je n'ai pas donné vos titres tout à l'heure. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université Bordeaux-Montaigne. Depuis quand peut-on dire que ce vignoble est un grand vignoble commercial ?
Alors, très certainement, dès les origines de ce vignoble, dès la première implantation au moment de l'Antiquité, mais c'est encore quelque chose que l'on mesure relativement mal.
Oui, bien sûr.
Mais véritablement, c'est au Moyen-Âge, effectivement, que l'on doit cette dimension commerciale et urbaine du vignoble de Bordeaux, parce que c'est peut-être quelque chose dont aujourd'hui on ne se rend pas compte, mais le grand vignoble de Bordeaux, dans sa vision médiévale, et encore qui perdure jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'au XVIIIe siècle, ce sont des vignobles suburbains. urbain. Ça vaut pour Bordeaux qui avait très certainement le plus grand vignoble en superficie et en valeur de l'Aquitaine, voire de la France. Mais ça vaut aussi pour d'autres bourgades, Saint-Émilion bien sûr, mais aussi Libourne, mais aussi Riom, Scadillac, toutes les bourgades du Bordelais.
À une époque où je travaillais de près sur Bruges, je me rappelle que les vins de Bordeaux jouaient un rôle important dans le commerce et dans la richesse de Bruges et d'une façon générale de toutes les villes de ce qu'on appelait la Ligue hanséatique, hein, c'est-à-dire cet extraordinaire consortium médiéval de commerce et de transport. Est-ce que les vins de Bordeaux finalement n'étaient pas destinés d'abord à l'exportation, puisqu'on n'en buvait pas à Paris, mais en revanche on en buvait à Londres ou à Bruges?
Alors la médiéviste dira l'inverse.
Ah bon?
Dira d'abord que les Bordelais ont fait du vin pour le boire, hein, pour leur provision, comme on dit dans les archives. Hein, c'est d'abord le vin pour la consommation, puisque au moins jusqu'au 19e siècle, le vin est nourricier. Hein, on mange du vin quand on mange du pain. Hein, il y a cette dimension-là qu'il ne faut jamais oublier. Et c'est donc véritablement le surplus qui est vendu, d'abord sur le marché local. Hein, toute ville protège la vente de son vin sur le marché local, puisque le vin local est prioritaire sur le marché dans la ville. Et c'est véritablement ce qui reste qui part dans le grand commerce. Au demeurant, le reste est considérable, hein, puisqu'on le sait, ce grand commerce du vin est considéré comme le plus grand commerce à l'époque médiévale,
mais encore aussi... Les clarets, comme on disait.
Effectivement, hein. le claret, hein, c'est claret. Ce terme que les Anglais ont donné au vin de Bordeaux. Mais le mot de claret s'étend à toute la production de vin à la fin du Moyen-Âge. Hein, que ce soit le Bourgogne est aussi un claret à la fin.
Ce n'est pas encore un vin de garde. Celui qui va faire de ce vin de Bordeaux un vin de garde, c'est justement Arnaud de Pontac, dont je vais vous parler maintenant. En simplifiant un peu, je vous vois hocher la tête, mais vous nous expliquerez tous les détails par la suite. On est comme par hasard à Londres, car dans cette affaire, les Anglais ont joué un rôle considérable.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous retrouvons Franck Ferrand, direct de Bordeaux, qui consacre son récit à Arnaud de Pontac.
Nous sommes à Londres le 2 septembre 1666. C'est forcément une date qui vous rappelle quelque chose. Ce grand incendie de Londres, on en a parlé à l'école, un jour ou l'autre, forcément. Il est un petit peu plus de minuit ce 2 septembre, quand une boulangerie qui se trouve au cœur du quartier de la City, hein, là aujourd'hui vous avez les nouveaux buildings de la capitale financière, il est un peu plus de 2 heures quand une boulangerie prend feu, et le feu se répand très vite. Vous savez qu'il faut imaginer ce que peut être le tissu urbain de l'époque, hein, avec un dédale de ruelles étroites assez insalubres, des immeubles qui sont la plupart du temps en bois, surpeuplés, tout ça crame très facilement. L'incendie va se répandre d'îlot en îlot à la faveur de vents qui en plus sont assez forts sur Londres en ce début de mois de septembre 1666. L'incendie devient très vite incontrôlable. La population tente de lutter comme elle peut, mais quoi faire face à ce déluge de feu? Les habitants fuient, ils ont raison de fuir d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait que cet extraordinaire incendie, un des plus célèbres de l'histoire, fera en vérité extrêmement peu de victimes. Il n'y aura quasiment pas de morts. Simplement, quartier après quartier, c'est toute la capitale britannique qui est en train, à l'époque, qui est dévastée, tout simplement. Or, Londres va, à la suite de cet incendie, se relever. Un peu comme on verra en 1755, Lisbonne se relever du grand tremblement de terre, si vous voulez. Mais se relever avec une vigueur, avec une énergie formidable. Sous l'impulsion du roi Charles II, la ville se reconstruit. En quelques années, elle devient la capitale la plus moderne d'Occident et l'une des plus riches, évidemment. Après l'incendie, pour répondre à toutes les nouvelles exigences des riches londoniens, on va créer de nouveaux magasins, on va organiser le commerce d'une autre manière, on va organiser également autrement la sociabilité. Il se trouve qu'à cette époque, le vin qu'on buvait, on a parlé tout à l'heure du mariage d'Aliénor d'Aquitaine, on a parlé de ce vin claret qui faisait la célébrité du vignoble bordelais jusqu'outre-Manche pendant tout le Moyen-Âge. Mais le vin commençait à être un peu démodé. La boisson à la mode, c'était le gin qui venait de Hollande. C'était aussi, bien sûr, n'oubliez pas l'importance de la Compagnie des Indes, c'était le thé, c'était le café. Donc le claret, le vin de Bordeaux est un peu dépassé et pour survivre, il va devoir en quelque sorte changer de goût. Eh bien, c'est précisément à ce moment-là qu'à Bordeaux, un homme est sur le point de révolutionner la façon de faire du vin. Il s'appelle Arnaud de Pontac, Arnaud III, de cette dynastie des Pontac. Il est président au Parlement de Bordeaux. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays d'État. Il est aussi le propriétaire d'un riche domaine viticole vers le sud de la ville, le domaine de Aubrion, où l'on produit aujourd'hui encore un des vins les plus prestigieux du monde. Arnaud de Pontac va mettre au point des techniques nouvelles qui vont permettre de mieux conserver le vin. Ça, c'est une révolution. Le vin va revêtir à ce moment-là cette robe rouge rubis qu'on lui connaît aujourd'hui. À l'époque, il était beaucoup plus clair. Et puis surtout, il va changer de goût. Alors, Pontac va créer en quelque sorte ces vins qui pour la première fois vont pouvoir se bonifier en vieillissant. À une époque où les guerres font rage, il faut pouvoir stocker le vin. Arnaud de Pontac fait la synthèse de différentes techniques qui existaient déjà, bien entendu. Il les systématise. Il va créer le vin de garde. Ces techniques, elles sont utilisées à l'époque à Aubrion. La conservation se fait en trois étapes. D'abord, on brûle du soufre pour assainir les barriques. Puis vient l'étape du soutirage qui permet de débarrasser le vin des impuretés en le changeant de barrique régulièrement. Enfin, c'est l'ouillage qui consiste à remplir à ras-bord les barriques pour limiter l'oxydation. Et grâce à toutes ces techniques qui sont encore une fois synthétisées par la famille Pontac, les vins vont commencer à pouvoir vieillir. On découvre ce nouveau goût, cette nouvelle robe. On peut dire que le vin moderne est né. C'est un peu l'ancêtre du vin que nous buvons aujourd'hui. Mais il faut, à ce nouveau vin, trouver bien sûr de nouveaux débouchés. Et c'est là que l'Angleterre et Londres en particulier vont jouer un rôle essentiel. Comme bien d'autres avant lui, Arnaud de Pontac vend son vin en Angleterre. Il va le charger dans le port de Bordeaux, sur des navires qui voguent jusqu'à cette riche capitale. Et il demande à son fils d'acheter là-bas une taverne, précisément dans ces nouvelles boutiques qui sont nées du nouvel urbanisme après le grand incendie de Londres. Et au-dessus de la porte, il fait accrocher une plaque avec son portrait. Ce sera donc la Pontac's Aid, l'enseigne de Pontac qui ouvre ses portes. Comment vous décrire ce qu'on fait dans c'est une sorte de bar à vin, si vous voulez, qui pourrait, si j'employais un anachronisme, on pourrait presque parler d'un restaurant avant la lettre. C'est aussi une épicerie fine, et puis c'est un débit de vin, bien entendu. Pontac, il sert une cuisine française assez extraordinaire. Les Anglais ne sont pas habitués à déguster des escargots engraissés, à déguster des poussins, etc. Pour accompagner ces plats extraordinaires, on leur propose un seul et unique vin, le fameux Aubrion. Nous avions retrouvé, à l'occasion d'une émission de télévision que j'ai réalisée l'année dernière pour France 3, nous avions retrouvé à Kew, aux archives britanniques, les tout premiers registres sur lesquels figure le nom de Aubrion. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on va donner au vin un nom de terroir. C'est presque le début d'une certaine publicité dont, par la suite, Bordeaux va se faire une véritable spécialité. Vous voyez que c'est donc dans cette fin du XVIIe siècle, à partir du moment où ça se généralise, on est au début du XVIIIe siècle, que le vin de Bordeaux tel que nous le connaissons, s'appuyant sur ses caractéristiques et ses spécificités, va s'imposer peu à peu. Dans quelles circonstances et jusqu'à quel point, c'est ce que nous allons voir dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous retrouvons Franck Ferrand, direct en public de Bordeaux, Fête le Vin sur les quais de la Gironde, avec ses invités Sandrine Lavaux, maître de conférence en histoire médiévale à l'université Bordeaux-Montaigne, auteur de nombreux ouvrages historiques sur le vin de Bordeaux, Philippe Massol, directeur de la future cité des civilisations du vin à Bordeaux, qui ouvrira en 2016, et Stéphane Place, notre correspondant européen à Bordeaux. Franck, vous êtes en direct et en public.
Et oui, et nous sommes aussi en compagnie de l'ancien directeur général du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, Roland Ferredge, qui nous a parlé de ce vignoble depuis le début de l'émission. Quant à Philippe Massol, nous lui donnerons la parole tout à l'heure pour qu'il nous parle de l'extraordinaire cité qui est en train de se bâtir là, à quelques encablures de ces quais de la Gironde. Je parlais de la famille de Pontac et d'Arnaud de Pontac à l'instant, Sandrine Lavaux. Il faut peut-être préciser que le vin que vend Arnaud de Pontac est donc un vin rouge, ce qui à l'époque n'était pas si fréquent en Angleterre notamment.
La montée en puissance des vins rouges est un phénomène effectivement relativement tardif à l'échelle de l'histoire des vins de Bordeaux. On pourrait même dire des vins français de façon générale, puisque les vins rouges vont s'imposer dans le goût et dans la culture du vin, essentiellement à partir du XVIe siècle. Si je prends le cas de Bordeaux, la diffusion des vins rouges, paradoxalement, va d'abord se faire dans des terroirs de palus, hein, avec un cépage qui est très certainement celui du petit Verdot. Et c'est selon la mise en valeur de ces palus à la fin du Moyen-Âge et au début du XVIe siècle qui va se jouer par cette diffusion du vin rouge de presse. Auparavant, on en faisait, mais le vin rouge n'était véritablement produit que pour justement houiller les vins clarés de façon à les colorer pour ceux qui l'ont jugé un peu trop clair.
On est à une époque, pendant le XVIIIe siècle, où s'étend la zone d'influence de ces vins de Bordeaux. On va le vendre jusque de l'autre côté de l'Atlantique, ce vin, évidemment.
Effectivement, après le marché anglais que vous avez signifié, le marché flamand sur lequel il faudrait beaucoup insister, puisque ce sont aux Flamands que l'on doit la généralisation de ces nouvelles techniques qui vont permettre effectivement les vins de garde. Finalement, les Flamands vont surtout introduire l'allumette hollandaise, mais vont aussi généraliser ces techniques comme l'ouillage, le soutien, etc., dont vous avez parlé. Et effectivement, avec le XVIIIe siècle, au moment où Bordeaux est pratiquement le premier grand port français avec Nantes, avec notamment l'essor du commerce atlantique, effectivement, les Bordeaux vont gagner le Nouveau Monde, hein, et toutes ces îles d'Amérique, où nombre de propriétaires bordelais ont aussi des plantations.
Il y a une chose qui va apparaître bientôt, alors là on est au 19e siècle, Roland Ferrage, ce sont les châteaux qui font évidemment la célébrité de ce vignoble.
Oui, alors d'ailleurs dans les archives de l'imprimerie Vetterval, on a les vieilles étiquettes de vin de Bordeaux, et on a beaucoup de mal à l'époque à trouver la notion de château. En réalité, les grands crus s'appelaient par Cosse, Margaux, etc. La notion de château est ultérieure et c'est un outil marketing en quelque sorte. Hein, créer des marques, hein, c'est une innovation marketing entre guillemets, hein,
oui,
dans l'anachronisme total, mais c'est une invention qui a perduré et qui s'est développée.
Ce vignoble va bientôt bénéficier, quand je dis bientôt, on est au moment de l'exposition universelle de 1855, va bénéficier du fameux classement. C'est-à-dire que là, ce classement a été fait à partir des cotes sur le marché, c'est ça?
Alors
en fait,
déjà, il existait des classements. Oui. Il y a un classement, je crois, de 1647 qui avait été déjà fait sur les vins de Bordeaux. Et d'ailleurs, c'était les vins de Grave qui arrivaient comme les meilleurs crus de l'époque. Et puis en 1855, à l'occasion de l'exposition universelle, le gouvernement de l'époque demande aux courtiers et à la Chambre de commerce d'établir un classement. Ce classement est banal, hein, c'est un classement qui repose sur l'étude des prix pendant 30 ou 40 ans, et donc qui classe tout simplement par prix. Alors ce qui est caractéristique de ce classement, un, c'est qu'il dure encore, et ça c'est formidable.
Plus de 150 ans plus tard.
Et oui, c'est comme la Joconde, si vous voulez. On la repeint pas, hein, on la garde. Et en même temps, d'autres classements se développent, comme les crus des Graves et le classement naturellement de Saint-Émilion, puisque dans le classement de 1855, la rive droite avait été oubliée.
Qu'est-ce qui fait la particularité de ces grands vins de Bordeaux qui deviennent tellement célèbres à partir de la moitié du 19e siècle?
Alors écoutez, il y a des études très, très savantes d'universitaires sur les classements comme outil d'hiérarchisation et d'organisation d'un système. Donc ça structure l'économie du vin de Bordeaux. Et après, ce qui fait leur succès d'une certaine façon, c'est la notoriété qu'ils acquièrent au fil du temps. Et puis leur qualité intrinsèque. Hein. Alan Sichel, le président du négoce, qui est anglais, quand on lui demande quelle est la caractéristique essentielle du vin de Bordeaux, il dit c'est sa digestibilité. Et je crois que c'est la bonne appréciation.
Ces grands vins de Bordeaux, ces célèbres, tous ces grands châteaux tellement connus dans le monde entier, ils ont su changer depuis quelques années, Stéphane Place. Ils ont su notamment se mettre à l'heure du commerce international, il faut bien dire.
Totalement. Et puis, peut-être que ça correspond aussi à cela, mais ils se sont ouverts. C'est-à-dire qu'il y a encore finalement une vingtaine d'années, c'était entre nous. Hein. Le no-tourisme, par exemple, était assez peu développé. On expliquait que visiter une propriété viticole de renom, C'était pas simple, il fallait connaître. Enfin, aujourd'hui, tout a complètement été modifié de ce point de vue-là. Au contraire, il y a un vrai œnotourisme qui est en train de se développer à Bordeaux et ça correspond à la fréquentation étrangère de cet événement et puis tout au long de l'année. Et effectivement, tout d'un coup, on a aussi découvert le monde viticole. C'est-à-dire que Bordeaux ne pouvait plus vivre seul sur sa réputation, dans son vignoble. Il y avait la concurrence des vins du Nouveau Monde. On pense au Chili, à la Californie. Vous savez que l'invité d'honneur de Bordeaux Fête le Vin cette année, c'est Los Angeles. Et on sait qu'en Californie, il y a une tradition viticole. On le sait, mais à Bordeaux, maintenant, on y fait attention. Peut-être que pendant des années, on prêtait guère attention à ce qui se passait ailleurs.
Ce qu'il faut dire, c'est que la starisation, si j'ose dire, la mise en avant, en tout cas, d'un certain nombre de grandes propriétés, avec notamment la mise en bouteille au château et le contrôle par les différents domaines de leur propre production, tout ça, c'est quand même bien spécifiquement bordelais. Avant, on avait un commerce de négoce. À Bordeaux, on arrive à une autre forme de commerce, Sandrine Laveau.
Oh, vous avez évoqué le cas de Pontac tout à l'heure. On est véritablement dans le début d'un processus de ce qu'on appelle la civilisation des mœurs et la mise en place du vin de distinction.
Voilà.
Vin de distinction par la naissance des grands crus, parce qu'on met on sait fabriquer des vins de garde qui vont se différencier, déclarés dont tout le marché était en primeur. Vin de distinction aussi parce que ces vins sont dévolus à une aristocratie qui trouve un moyen de véritablement exprimer la hiérarchie sociale. Bon. Donc cette notion de distinction, on va la retrouver sur la très longue durée et elle participe à la définition des vins de Bordeaux encore aujourd'hui, me semble-t-il. Et les négociants ont aussi porté cette vision-là du vin de Bordeaux.
Alors vous qui nous écoutez ou qui nous rejoignez, vous aviez bien compris qu'on est très heureux d'être ici à Bordeaux, mais il n'y a pas non plus que Bordeaux dans la vie. Dans un instant, nous allons parler de tous les autres vignobles de France et d'ailleurs.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Toute une enfance à l'ombre de la maison de mon grand-père. J'étais si jeune et je regardais la Garonne. Et je ne pensais à personne quand je rêvais à l'homme à qui plus tard ma vie de femme serait liée. Comme la Garonne qui roule et sonne comme un accent. J'ai la passion d'être amoureuse de tout mon cœur, de tout mon sang. Comme la Garonne qui s'élargit vers l'océan, qui tourbillonne et s'abandonne. J'ai toujours su que je l'aurais, ce grand amour.
Nous venons d'écouter Nicole Croisy sur Europe 1, la Garonne. Et nous retrouvons Franck Ferrand en public et en direct de Bordeaux.
Et alors, pour ceux qui nous ont rejoints, comme il y a un peu de soleil, pour tout vous dire, on vient de distribuer des glaces qui ont l'air succulentes. Je vous avoue que je vous envie, vous qui êtes en face. Nous parlions de ces vins de Bordeaux, bien entendu. Alors, il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'on fait du vin, bien entendu, Roland Ferrel. Il y a quand même une extraordinaire réunion de grands vignobles en France, déjà.
Ah oui, vous savez que la vigne couvre à peu près 800 000 hectares en France. Et donc, tout le monde connaît les grandes régions comme les Côtes-du-Rhône, la Bourgogne, le Val-de-Loire, le Beaujolais, où il y a d'excellentes appellations d'ailleurs, parce que il n'y a pas que le Beaujolais nouveau, Bordeaux naturellement, et puis des petits vignobles qu'on connaît moins, comme Buzet, Jurançon, etc.
On parle beaucoup de balance des paiements, d'exportation, etc. En ce moment, le vin joue un rôle non négligeable
dans la balance commerciale française. Les vins et spiritueux sont le premier poste. Avec un solde excédentaire et ce de façon continue, je veux dire depuis les années 70, fin des années 70.
Alors ce qu'on observe aussi depuis la fin des années 70, c'est la concurrence de plus en plus marquée d'un certain nombre de grands vignobles étrangers qui n'existaient pas il y a encore 50 ans.
Oui, pour vous donner un chiffre, le commerce international du vin, c'est 100 millions d'hectolitres qui vont d'un pays à l'autre. Sur une production totale qui est de l'ordre de 250 millions d'hectolitres. Donc il y a effectivement un commerce du vin, un monde du vin, c'est le cas de le dire. Et donc le commerce est très ouvert avec beaucoup de pays, et notamment des nouveaux pays producteurs qui ont mis en place une industrie viticole pour exporter. C'est le cas par exemple de... Si je prends l'Australie, qui est un vignoble un peu comparable à celui de Bordeaux en termes de surface, plus de la moitié de la production est exportée parce que le marché indigène existe moins que chez nous.
Est-ce que les cépages les types de raisins qui sont cultivés à travers le monde sont les mêmes que chez nous.
Alors absolument, vous savez, il y a les grands cépages internationaux. Bordeaux en a quelques-uns, comme le Cabernet, le Merlot, le Sauvignon. Et il y a deux approches.
Le plus répandu ici, je me rappelle ça, quand je faisais le tour des grands crus classés, c'est le Merlot le plus répandu dans la région.
C'est celui qui se développe, en tout cas.
Oui, voilà, c'est ça. Hein,
parce que c'est plus facile, sans doute. Mais c'est un grand cépage international, et beaucoup de régions qui n'avaient pas ce cépage indigène le développent. Alors il y a deux approches au niveau international, c'est l'approche par cépage. Quand vous allez aux États-Unis, vous demandez un Merlot ou un Cabernet, et puis vous avez l'approche indication géographique, je dirais, qui est plus spécifique au vignoble européen. Alors aujourd'hui, les choses évoluent et on n'oublie pas quand même de mentionner le cépage quand on parle de son appellation, ça peut toujours aider au plan commercial.
Oui. Les vins de Bordeaux sont des vins d'assemblage, il ne faudrait pas l'oublier. Il faut expliquer à tous nos auditeurs ce que ça signifie.
Alors techniquement, je ne vous expliquerai pas ce que ça signifie, mais tout le monde comprend le mot. Hein, c'est les vins les plus racés sont des vins subtils, et c'est au moment après la vinification, au moment de l'assemblage justement.
C'est-à-dire le dosage, on pourrait dire.
Oui, que le viticulteur signe son vin véritablement en mettant une dose de ceci.
Il choisit parmi des cuvées qui viennent de différentes parcelles.
Oui, tout à
fait. Il choisit de mettre telle proportion de telle et un peu moins de celle-ci, un peu plus, etc. Voilà. C'est d'ailleurs passionnant à observer. Hein,
là,
ça se fait comme dans un laboratoire de chimie avec des grands tubes à éprouvettes. Hein.
Donc deux personnes disposant, je dirais, des mêmes vins au même moment feront des produits différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on décrit un vin, on dit c'est un vin très féminin, très masculin, etc. C'est la personnalité vraiment du viticulteur qui transparaît à travers ce vin.
J'ai eu tendance, étant donné que j'avais fait ce travail sur le Médoc il y a quelques années, j'ai eu tendance à toujours mettre en avant le Médoc. Il ne faut pas oublier les autres vignobles. Hein. Je le sais, Stéphane Place, parce que je me rappelle un coup de téléphone de Stéphane Place me disant « ça crie un peu du côté de Saint-Émilion et de Pomerol. Il y a des gens qui aimeraient qu'on parle un peu d'eux de temps en temps. »
Mais c'est vrai qu'il y a une diversité, et il ne faut pas non plus se focaliser que sur les grands noms. Ils existent et c'est formidable, mais du vignoble bordelais. Il y a vraiment aujourd'hui une qualité chez plein de petits producteurs, et petits vraiment entre guillemets, qui font extrêmement bien leur travail et leur métier. Et puis dire aussi que l'essentiel de la consommation, parce que souvent nous on se fait chambrer quand on habite à Bordeaux, on dit alors ta cave, ma cave elle est composée principalement de vin dans le prix n'excède jamais 5 euros la bouteille quand même. Hein. Et évidemment, ce sont pour autant d'excellents vins produits dans le Bordelais, il faut le dire aussi.
Oui, bien sûr. Bordeaux a, nous l'avons compris, constamment évolué, a été presque toujours à la pointe de ces évolutions du vin, mais il y a aussi des traditions. Je pense à la Jurande de Saint-Émilion, par exemple. Il y a quand même des traditions qui sont très fortes et qui sont même ancrées quasiment dans le Moyen-Âge, Sandrine Lavaux.
Alors, la Jurade de Saint-Émilion, qui reprend d'ailleurs une appellation qui est celle originelle d'une Jurade dans le monde médiéval, c'est un conseil municipal. Donc, la Jurade de Saint-Émilion, elle s'apparente plus aux confréries viticoles et vigneronnes qui existent dès le Moyen-Âge, effectivement, mais qui se développent ici beaucoup à partir du XVIe siècle sur les confréries Saint-Vincent et autres, donc ce saint qui est le saint vigneron par excellence. Saint-Émilion, effectivement, est sans doute un des plus grands conservatoires historiques du vignoble bordelais, même si Saint-Émilion a de véritables singularités dans son histoire. Si je dis que c'est un conservatoire, c'est parce que on le sait, l'appellation de Saint-Émilion s'est plaquée sur l'ancienne juridiction, l'ancienne banlieue de Saint-Émilion, que l'on voit se mettre en place par la charte de Falaise à la fin du XIIe siècle. Donc on est là comme quelque chose de figé, qui est aussi toute la force et la tradition de ce vignoble de Saint-Émilion.
Ça, c'est pour ce qui entoure en quelque sorte le vin lui-même.
Ça participe aussi un peu comme les châteaux de cette opération de marque de Saint-Émilion, cette reprise en compte de la Jurade, qui a été effectivement un des moteurs, si on peut dire, de la dynamique commerciale du vin.
Alors, dans un instant, nous allons évoquer un immense projet qui est en train de naître ici, sur les bords de la Gironde, ici à Bordeaux. C'est le projet d'une cité internationale du vin. Nous y venons dans un instant et nous allons essayer de vous la faire visiter, si je puis dire, en avant-première. Elle n'est même pas tout à fait encore sortie de terre.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous retrouvons Franck Ferrand en public et en direct de Bordeaux.
La cité des civilisations du vin va naître à Bordeaux en 2016. Elle n'est donc pas encore tout à fait sortie de terre. Et elle a pourtant déjà un directeur qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe Massol.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci beaucoup d'être ici. Alors, vous êtes à la tête d'un projet fascinant. J'ai vu ça ce matin en arrivant. Évidemment, vous m'avez fait visiter ce qu'on peut voir déjà. C'est fascinant ce qui est en train de naître ici. C'est un des plus grands centres internationaux consacrés au vin. Est-ce qu'on peut dire ça?
Je pense que ça va être le plus grand.
C'était le plus grand.
Aujourd'hui, je crois que après ces trois premiers quarts d'heure d'émission, l'enjeu de cette cité des civilisations du vin, ça va être de mettre en scène tout ce qui a été dit. Et on a beaucoup parlé de Bordeaux, mais le vin aujourd'hui, c'est 7000 ans d'histoire, c'est 90 pays qui le produisent. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de civilisation au pluriel des vins qui ont en commun une culture. Et ce lieu a pour vocation de devenir demain à Bordeaux, qui devient une grande ville touristique, un site incontournable, un endroit qu'on viendra visiter, qu'on connaisse très bien ou pas très bien le vin, qu'on l'apprécie beaucoup ou pas beaucoup, devenir une destination urbaine majeure de la ville de Bordeaux et de ses touristes.
Alors vous allez nous dire dans un instant à quoi va ressembler cette cité des civilisations du vin. Mais disons déjà que vous naissez au bon moment. Rien n'est plus fort, disait Victor Hugo, qu'une idée qui vient à son heure. Mais là, le vin, d'une certaine manière, est à la mode. Lorsqu'on regarde les films ou les séries télé, par exemple, dans les années 40-50, on y buvait du champagne à flot. Dans les années 80-90, c'était la grande époque du whisky, du scotch, etc. Depuis quelques années, les plus grandes stars de la planète passent leur temps, dirait-on, à siroter de grands vins dans de grands verres.
Oui, c'est pour ça qu'effectivement, le projet est ancien. Et il y a 6 ans, c'était le bon moment. Et l'ensemble des acteurs de ce projet, la ville de Bordeaux en étant le maître d'ouvrage et le CIVB en étant un des acteurs essentiels, ont décidé que c'était le moment. Donc tout le monde s'est mis autour de la table. Et puis en quelques semaines, assez rapidement, est né un concept qui était de se dire Bordeaux est cette capitale mondiale du vin, c'est ici qu'on doit effectivement y faire un grand voyage dans le temps, un grand voyage dans l'espace pour découvrir ces civilisations du vin.
Roland Ferret, à quoi est-ce qu'on peut attribuer cet engouement international pour le vin ?
Écoutez, je crois que les consommateurs aujourd'hui, à travers ce qu'ils consomment, ont envie de retrouver une certaine histoire, une certaine identité. Et je crois qu'il y a une appétence pour tous les produits qui ont une origine, qui ont... Et puis le vin...
Qui puissent profondément leurs racines,
sans mauvais jeu de mots. Ça, je le crois, oui, notamment pour le vin, c'est bien. Mais je crois véritablement que ça concerne pas d'ailleurs que le vin, mais pour regarder ce qui se passe dans le cas du fromage, par exemple, on est exactement sur le même schéma, c'est-à-dire que vous avez des origines, des spécificités dans lesquelles les consommateurs modernes se retrouvent.
Mais dans le cas du vin, on voit partout fleurir des salons, on voit les revues tout simplement, les revues spécialisées. Il faut pas oublier également les notes et les cotations que donnent un certain nombre de grands spécialistes. Je pense à Robert Parker, mais il n'est pas le seul, évidemment. Tout ça a contribué sans doute.
Ça a largement contribué à ça et aussi au fait que le vin, c'est quand même la boisson du partage. Et un moment de convivialité avec une bonne bouteille de vin, il n'y a pas mieux.
Est-ce qu'à Bordeaux, là je me tourne vers notre correspondant sur place, vers Stéphane Place, est-ce qu'à Bordeaux on attend cette cité des civilisations du vin ? Qu'est-ce qu'on en dit comme ça dans...
Oui, on l'attend avec même une certaine impatience parce que finalement ça va être un lieu qui pose déjà des questions, des interrogations qui a ouvert un certain appétit, une certaine gourmandise de découverte, ça c'est indéniable. Et puis il y a la forme architecturale qui fait l'objet de beaucoup de discussions dans les dîners, dans les repas, entre copains,
parce que... Il y a ceux qui aiment et ceux qui aiment moins, c'est ça ?
Il y a ceux qui aiment et ceux qui aiment moins, puis il y a ceux qui distinguent déjà quelque chose. On dit par exemple que ça a la forme d'une carafe. Certains disent que ça a la forme d'une carafe.
Ça fait un peu penser à ça, effectivement. Donc, ce sont des formes extrêmement arrondies, un jeu d'orbe comme ça, assez extraordinaire, avec un mouvement comme en spirale, et puis ça finit par une tour, d'une certaine manière, une tour de bois et de verre, Philippe Massol ?
Oui, c'est ça, c'est la fluidité, c'est le vin qui tourne dans le verre, qui s'aplatit au fond du verre et qui se relève sur le côté. Et cette relève sur le côté, c'est effectivement cette amorce de tour. Donc aujourd'hui, les architectes qui ont imaginé ce projet, effectivement, en ont fait un bâtiment sans couture, un bâtiment fluide, un bâtiment complètement asymétrique, qui sera recouvert de 3200 plaques de verre et d'aluminium, qui seront toutes différentes les unes des autres. Donc un bâtiment effectivement à l'architecture symbolique très forte.
Et un bâtiment gigantesque, il faut le dire, hein. On n'est pas en train de parler d'une petite chose là.
Oui, il s'inscrit pour Bordeaux et dans les décennies qui viennent comme étant un des bâtiments qui vont permettre à Bordeaux de franchir ce cap d'une capitale européenne et qui doit, malgré son architecture magnifique du thème, trouver une nouvelle architecture.
D'ailleurs, vous me disiez que les architectes viennent d'être sélectionnés pour le pavillon de la France à l'exposition universelle de Milan, c'est ça ?
Oui, ça veut dire que le tremplin de la cité est déjà là.
Oui, voilà.
C'est important pour l'identité de la ville. Hein. C'est-à-dire que, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y avait pas de lieu de cette force-là dédié à l'histoire du vin aujourd'hui à Bordeaux. Ça n'existait pas.
Oui. Eh bien là, maintenant, ça va exister avec, à l'intérieur, des expositions temporaires, mais aussi, bien entendu, un grand parcours permanent. Vous mettez l'accent sur les technologies les plus en pointe. Il va y avoir de grands écrans, il va y avoir des images animées. Enfin, ce que j'ai vu ce matin est assez sidérant. C'est même difficile à décrire parce qu'on parle de choses qui n'existaient pas il y a encore 3 ans.
On est sur un produit hybride parce qu'on a voulu effectivement séduire une clientèle très large. Donc on a à la fois les modes de médiation qu'on retrouve dans le parcours permanent, qui sont ceux qui permettent d'immerger les publics dans des ambiances, dans des atmosphères, dans des histoires, de leur raconter des histoires. Et c'est là qu'on retrouve les images, les décors, etc.
Des tables dressées qui changent par simple projection, une sorte de labyrinthe d'images, des écrans géants partout, 20 attractions sur 4000 mètres carrés. Enfin, c'est pour donner une idée de l'ampleur du projet.
C'est ça. Et puis surtout, c'est 150 films qui vont être produits et avec dans ces films de nombreux personnages qu'on rencontre. Personnages vivants, mais personnages qui ne le sont plus et qu'on va retrouver parce qu'on ne pouvait pas imaginer effectivement le vin sans les hommes et les femmes.
On a l'impression qu'à Bordeaux, Stéphane Place, le vin est de plus en plus fêté. On parlait tout à l'heure de Vinexpo. Là, nous sommes évidemment ici sur ce pavillon de l'école du vin de Bordeaux dans le cadre de Bordeaux Fête le Vin. Il y a énormément d'événements comme ça qui se succèdent maintenant.
J'allais dire, et heureusement, finalement, on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'y avait pas davantage avant, plus tôt. Vous parliez de Vinexpo, là, c'est un rendez-vous professionnel et qui fait venir des professionnels de la terre entière. Ici, Bordeaux Fête le Vin, effectivement, c'est beaucoup plus festif parce qu'on vient déguster du vin et puis chaque soir il y a des spectacles, des concerts, des feux d'artifice, on vient en famille, on vient entre copains autour de ce produit qui reste, Roland Ferret, je le soulignais tout à l'heure, porteur de valeurs, d'histoire, de racines et puis par ailleurs qu'on déguste, c'est-à-dire et qu'il y a un vrai plaisir élégant.
Pour apprécier, pour comprendre le vin, et puisque nous ne l'avons pas dit, je crois, depuis le début de cette émission, je ne veux pas tomber sous le coup de la loi E20, évidemment. Ce vin ne doit toujours être dégusté qu'avec modération.
C'est le cas.
Évidemment. C'est le cas en plein soleil, là où nous sommes cet après-midi. On est en train de manger des glaces, on ne sirote pas de vin. Ce vin, il faut le connaître et il y a là toute une pédagogie à faire. C'est aussi la mission de cette cité des civilisations du vin, Philippe Massol.
Oui, absolument. On va initier des publics très larges, de manière différente de celle de l'école du vin on est aujourd'hui, puisque on parle du vin dans sa dimension patrimoniale. Donc, on est convaincu que dès le plus jeune âge, et ce sera en l'occurrence pour nous dès la maternelle, on va animer des groupes en leur parlant du goût, des arômes. Ce sera ça le point d'entrée. Puis progressivement, au fur et à mesure que l'âge va évoluer, on va amener effectivement les futurs consommateurs vers la connaissance du produit culturel qu'ils vont consommer et vers la modération.
Est-ce que vous comprenez que ça puisse déranger certaines personnes, Roland Ferretge, le fait qu'on parle de vin à de très jeunes enfants ?
Écoutez, non, parce qu'au CIVB, on a des programmes adaptés aux écoles maternelles, au collège et au lycée. Et je crois que ça fait partie de la culture. On ne peut pas vivre dans un territoire qui a un des vignobles les plus beaux du monde sans en parler et sans s'ancrer dans ce territoire. Et encore une fois, vous le disiez, le vin s'apprécie dans la modération, il s'apprécie jamais dans les excès.
Merci beaucoup Roland Ferretge, merci Sandrine Laveau, merci Stéphane Place d'avoir été fidèle au poste et puis bonne chance Philippe Massol pour la dernière ligne droite. Il sera inauguré quand ce lieu extraordinaire, national, international?
Pour le moment c'est avril 2016.
Avril 2016, vous dites pour le moment, ça pourrait, on ne sait jamais.
Mais enfin bon. Par prudence.
Bon. Croisons les doigts et nous serons là pour l'inauguration, bien entendu. Sous vos applaudissements dans un instant, Elena Morna.